France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Man City is in the house.
حاليا راديو روزانا في باريس.
Produce que en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Et on élargit la focale ce soir.
Pope Francis has died.
Pope Francis qui Omar.
Zmarł papież Franciszek.
Muerto Jero el Papa Francisco.
Estoy en posición de confirmar esta mañana lo que ya se temía. Ha muerto su santidad el Papa Francisco.
Questa è la notizia. È morto Papa Francesco.
Le pape François est mort ce matin, c'est une information urbi et torbi et plusieurs images fortes se bousculent dans nos têtes. Celle de ce pape s'y affaibli hier mais allant chercher une dernière fois le contact avec les fidèles en écho à sa toute première apparition publique au balcon du Vatican le 13 mars 2013. À peine élu, vêtu d'une simple soutane blanche, ce pape venu du bout du monde, comme il disait, qui demande aux fidèles de prier pour lui en s'inclinant. Celle de François à Lampedusa, là où affluent les migrants, le même, place Saint-Pierre, en 2020, prononçant la bénédiction Urbi et Orbi sur une gigantesque place vide à cause du Covid. Le pape qui pleure aussi en évoquant le sort de l'Ukraine. François aura imposé un style inédit et aura assumé sa charge jusqu'au bout de ses forces. Il disait en 2023, je crois que le ministère du pape doit être exercé à vie. Il a été fidèle à cette idée jusqu'au bout. Et sur le fond, le jésuite argentin est resté un homme du Sud, pape des pauvres, des migrants, des périphéries, de la fraternité à la fois populaire et réformiste, mais jusqu'où ? On le disait clivant, bousculant les catholiques plus réactionnaires. Quel héritage va-t-il laisser ? Et qui pour lui succéder ? Eh bien, pour en parler ce soir, Bruno Duvic, évidemment le correspondant de France Inter à Rome, qui est notre fil rouge aujourd'hui. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Monseigneur Patrick Valdrini, depuis Rome aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste du droit canonique, professeur émérite à l'Université pontificale du Latran et en studio près de moi, Antoine-Marie Izoard. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne. Vous avez passé 20 ans comme correspondant au Vatican. Il est donc parti un lundi de Pâques à bout de force. On a l'impression qu'il s'est autorisé à lâcher. Est-ce qu'il faut y voir un symbole, Antoine-Marie Izoard ?
Ah ben certainement. Vous savez, c'est comme ces personnes âgées qui attendent tel ou tel enfant qui doit encore arriver avant de mourir. Je pense que là, effectivement, le pape a compris qu'il pouvait lâcher, entre guillemets, et se remettre entre les mains du Seigneur. C'est ce que je crois, moi, personnellement, comme fidèle catholique. Mais je crois que beaucoup se disent, tiens, il est apparu hier. Effectivement, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, place Saint-Pierre, au milieu de la foule. C'est-à-dire qu'on s'était dit, quand il y a un mois, il est sorti de l'hôpital, il apparaîtra peut-être pour la bénédiction Urbi et Orbi, peut-être qu'on le verra au balcon, mais très rapidement, de fait, ça s'est fait. Mais on n'imaginait même pas qu'avec la force de caractère qu'il a, on aurait dû peut-être, il allait faire le tour de la place Saint-Pierre pendant 10-15 minutes comme ça. Alors figé, un peu rigide, tenu sur sa chaise, sur sa papa mobile, mais au milieu de la foule. Et c'est cette foule qui, finalement, a dû lui dire au revoir d'une certaine façon. Et lui qui a dit au revoir à la foule. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'était tout à fait en écho à ce qui s'est passé il y a 12 ans. C'était le 13 mars 2013, quand, et je m'en souviens,
pour avoir été au pied
de la loggia et le soir de son élection, quand un peu les bras ballants après l'abbé Mouspapam, il débarque là et qu'il demande à la foule, c'est-à-dire au peuple de Rome, puisqu'il est aussi, il est le pape, mais l'évêque de Rome, qui lui demande de prier pour lui avant même de donner sa bénédiction.
Monseigneur Valdrini, c'était quoi le style François ? On rappelle qu'il avait choisi de s'appeler François à cause de saint François d'Assise, le saint des pauvres.
Bon, je pense que le style de François, c'est un style très, très simple. Hein. Il l'a très vite montré, comme Antoine-Marie Izoard l'a dit, et vous l'avez dit dans la présentation, dès le début de son pontificat, mais il l'a expliqué aussi dans le grand premier texte qu'il a donné, qui est La joie de l'Évangile, où on trouve l'orientation de son pontificat. Il parle de l'Église telle qu'il la conçoit, une Église en sortie, et dont il dit qu'elle doit être une Église aux portes ouvertes. Et cette orientation, on l'a vu dans la manière dont il a lui-même agi, hein, car c'est un pape qui va laisser certainement un patrimoine de pensée, c'est-à-dire des textes importants qu'il va falloir comme on fait pour tous les papes, lire, relire, etc. Mmh. Mais c'est un pape aussi d'action. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand il a fait sa première homélie, vous savez, la première messe, aussitôt après l'élection, le lendemain avec les cardinaux, on lui avait préparé un texte, bien évidemment. Il a mis le texte de côté et il a parlé, comme on dit en italien, a braccio, c'est-à-dire sans texte. Mmh. Or, il a pris trois mots. Et c'était trois verbes. Or, ça, c'est le style François, c'est l'action. Les verbes qui contiennent pratiquement la conception, sa conception de la papauté, plus que des grandes déclarations.
Mmh. Il avait un fort ministère de la parole, Bruno Duvic, hein, le pape François, quand même.
Oui, et c'est important. On dit souvent, le pape a parlé dans le vide à propos des migrants, à propos de l'écologie, mais au fond, l'un des rôles clés du pape, c'est de tenir une position morale, c'est un dignitaire religieux. Donc effectivement, le ministère de la parole, y compris la parole dans les discussions et dans le sens de la plaisanterie, il y avait une formule qui revenait toujours à la fin, parce qu'il savait que cette église qu'il laissait était divisée. Il terminait ses discours en disant « Priez pour moi, pas contre moi, mais priez pour moi ». Sous-entendu d'autres prix contre moi. Sur le style, François, pour le plaisir de lancer la controverse, il y avait des traits populiste dans ce pape. Le côté contact avec le peuple, le côté je me passe souvent des intermédiaires pour aller directement au contact des gens. L'origine sud-américaine, elle se voit aussi dans ces traits-là, dans cette façon-là d'agir, très très directe, parfois à la serpe. Il y avait de ça aussi dans le pape François.
Et il avait dû aussi s'imposer, donc vous parliez de ses origines sud-américaines, en tant que premier pape non-européen depuis le 8e siècle. Ce pape argentin devait briser l'hégémonie de l'Europe sur l'Église catholique, Antoine-Marie Izoard.
Ah ben c'est certainement, on disait de Benoît XVI qu'il était le dernier pape européen d'une certaine façon. Évidemment, tout d'un coup, on a Jorge Mario Bergoglio qui débarque d'Argentine, qui dit effectivement, je suis le dernier, les cardinaux sont allés chercher un pape au bout du monde. Alors, il était un peu en écho à ce qu'avait dit Jean-Paul II déjà. On est allé me chercher derrière le rideau de fer en 78, lorsque Jean-Paul II est élu. À certains égards, moi j'y repense beaucoup. Aujourd'hui, il y a de grandes similitudes entre ces deux pontificats. Des pontificats assez différents sur certains choix, sur certaines orientations, mais malgré tout, des pontificats très puissants, très forts, quand Benoît XVI a été plus discret, dans une grande humilité, un pape théologien qui a fait beaucoup pour l'Église, hein, qui a lancé des dossiers, on le redira, mais comme la question des abus, comme la question de la réforme des finances, mais qui ont été pris à bras-le-corps après par François, parce que Benoît XVI ne savait pas forcément faire avec la machine Église et compagnie. Et puis parce qu'il fallait du temps, et le temps, il lui en a manqué. Mais voilà, donc effectivement, François a surpris aussi par sa méthode, par ses gestes, on l'a dit tout à l'heure, Mgr Valdrini le disait très bien, il y a ce texte au début du pontificat, ou quasiment, de la joie de l'évangile, et puis il va y avoir d'autres textes très forts, des textes, comme on dit au Vatican, du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église, mais l'enseignement de François, il vient aussi des gestes, il vient de gestes fabuleux, des gestes comme, et je vous confesse, pardon, vraiment quelque chose qui a marqué moi une partie de ma foi de chrétien, de catholique. C'est ce geste de François qui embrasse assez tôt dans son pontificat un homme au visage totalement défiguré. Et je me dis, mais serais-je capable, moi, de faire ce geste-là? En fait, François est en train de me dire ce que je dois faire, ou en tout cas ce vers quoi je dois tendre. Et puis François, quelques semaines plus tard, lors d'une audience générale, place Saint-Pierre, il est sur sa papa mobile, et vous savez, alors on lui refile des gamins embrassés, des bébés, des ceci, des cela, et puis là, tout d'un coup, je ne sais comment c'est arrivé, on lui met dans les bras un jeune gamin, un jeune garçon tétraplégique, au corps totalement meurtri, et il embrasse cet enfant sur le front, moi ça a transformé, je ne peux pas en parler sans avoir les larmes aux yeux, ça a transformé ma vie de chrétien à certains égards pour mon engagement personnellement vers les personnes handicapées. Évidemment qu'il y a des choses qui grattent un peu dans ce pontificat, moi je suis parmi les peut-être, voilà, les conservateurs ou les classiques, conservateurs certainement pas, mais classiques, il y a certainement des choses qui grattent, mais ce pontificat est tout de même une révolution.
Une révolution, est-ce que vous diriez ça aussi, Mgr Valdrini?
Alors, une révolution, oui, d'une certaine manière, oui.
C'est fort, hein, une révolution, parce qu'il était quand même aussi dogmatique, quand même.
Oui, d'une certaine manière, je pense que c'est la manière de vivre. Jean-Paul II disait, un des cardinaux importants, qui était un cardinal qui aujourd'hui est mort, Torrent, disait, on venait voir Jean-Paul II, on venait écouter Benoît XVI, Et on venait toucher François. Et cette proximité du pape avec le peuple est une certaine révolution. On peut pas, le mot est très fort, c'est un changement, une rupture, disons. Mmh. Et c'est ce qui a plu aux Romains. D'ailleurs, ce qui est frappant aujourd'hui, et Bruno Duvic pourrait peut-être le confirmer, mais il y a une tristesse dans la ville, il y a une émotion, parce que le pape, c'est l'évêque de Rome, il y a un lien très fort entre Rome et le pape, qui est une autorité respectée. Donc, on l'a vu arriver en 2013, comme vous avez dit, on l'a vu faire des gestes, on l'a vu vieillir, on l'a vu malade, etc. Mais il y a une espèce de sérénité. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelqu'un d'entre nous. Et ça a plu aux Romains. Il est venu dans Rome. Il s'est promené dans Rome. Il a été acheté des lunettes dans Rome. Il a été acheté des disques dans Rome. Donc, il avait cette proximité. Ses gestes ont montré que le pape était, au fond, quelqu'un d'extrêmement simple, qui a une fonction évidemment extrêmement importante, mais ça reste un homme. Et dans l'histoire de la papauté récente, le pape est quelqu'un qu'on ne touchait pas, il était très loin. En revanche, lui, c'est quelqu'un qui était très proche. Et cela correspond en fait à sa conception même de l'Église, dont il disait que celle-ci, qui préférait une Église accidentée pour être sortie sur les chemins, que malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses sécurités. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a voulu... il a montré dans sa vie que cette ouverture qui consiste à toucher des personnes, à les embrasser, à leur parler, à faire en sorte que la personne soit unique en face du pape, que cela soit extrêmement concret et réel.
Absolument. Bruno Duvic, je voudrais revenir vers vous, justement, puisque vous êtes le correspondant de France Inter à Rome. Cet attachement, aujourd'hui, est-ce qu'on le ressent, Place Saint-Pierre ? Très franchement, on est assez surpris qu'il n'y ait pas plus de monde.
Alors voilà, deux choses. Moi, ce que j'ai perçu hier en rencontrant des fidèles après Urbi et Orbi et en parlant avec eux de cette extrême fragilité du pape, c'était une douce tristesse. Ça n'allait pas plus loin que cela. Et comme vous, je suis surpris de voir la place Saint-Pierre avec du monde. Mais il faut pas imaginer, les gens qui nous écoutent imaginent peut-être que des milliers et des milliers de personnes s'amassent place Saint-Pierre en ce moment très particulier. Ça n'est pas le cas. On s'était déjà fait la remarque, et notamment ceux qui avaient vécu la fin du pontificat de Jean-Paul II, d'une différence d'émotion au moment de l'hospitalisation du pape François. Ça n'était pas exactement la même chose qu'à l'époque de Jean-Paul II. Après, le côté contact facile, ça, oui, effectivement, les fidèles adoraient cela et adoraient ce pape qui vraiment allait au contact.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette réaction Antoine-Marie Zohar, elle est liée au fait qu'il a beaucoup, beaucoup agacé les conservateurs ?
Non, je pense en fait que quand on relit ce qu'on vient de se dire les uns les autres ici, en fait, effectivement, je pense que les fidèles, ils étaient là quand François était là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Alors, il y a eu, effectivement, Bruno Duvic l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu des prières du chapelet, du rosaire, pendant l'hospitalisation du pape François. C'était assez simple. Effectivement, il n'y avait pas des foules incroyables, mais il y avait du monde. Mais les fidèles, ils ont l'impression d'avoir prié pour le pape. Ils ont fait le travail. Le pape est revenu. Je pense que le pape, entre guillemets, s'attendait et souhaitait pouvoir mourir à la maison. Mourir au Vatican plutôt que de mourir là-haut dans cet hôpital Gemelli au quatrième ou sixième étage, je ne me souviens plus bien, là où il y a des chambres qui sont et une suite qui est installée pour le pape. Il savait le pape à la maison et ils sont venus hier, nombreux, 50 000 personnes au moins, place Saint-Pierre, c'est un beau dimanche de Pâques, pour apercevoir le pape convalescent mais qu'il n'imaginait pas voir pour la dernière fois.
Alors François a voulu une église plus accueillante, on a envie de dire plus inclusive vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des homosexuels, par exemple. Et il a aussi, à plusieurs reprises, fermement condamné les abus sexuels dans l'Église. Comme ici, je vous propose de le réentendre, c'était en 2023.
Desidero esprimere alle vittime.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les traumatismes qu'elles ont subis.
Anche la mia vergogna.
Mais aussi ma honte, notre honte, ma honte. Pour la très longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations. J'encourage les évêques et les supérieurs religieux à continuer à faire tous les efforts possibles afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. Et j'invite les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous.
Voilà, on l'entend, les mots du pape François sont forts. Mais qu'est-ce que ça a changé au fond, Monseigneur Valdrini ?
Écoutez, je pense que il faut d'abord écouter ce que disent les victimes. Les victimes, la plupart du temps, disent que l'Église n'a pas fait assez encore. Mmh. Donc, ce point, pour moi, est extrêmement important. Et je pense que les personnes, nous l'avons vu, la plupart des gens qui s'occupent de cela, essayent de faire en sorte que cette parole soit entendue, comprise, interprétée. C'est une telle, une telle blessure qu'il est extrêmement difficile de la comprendre si on ne donne pas la parole aux personnes. La deuxième chose, c'est le pape a fait faire un chemin à l'Église catholique sur plusieurs points. Le premier, c'est le rapport à l'ordre public pénal. Il est clair que, en tant que canoniste de 77 ans, j'ai entendu aujourd'hui dans la bouche du pape et lu dans ses textes des choses qui ne se disaient pas il y a 20 ans. Donc, en particulier, le fait de demander à la justice pénale de passer et de faire son travail. On ne demande pas à la justice pénale de respecter une sorte d'immunité des clercs. Point. La troisième chose, c'est aussi qu'il a fait, à l'intérieur de l'Église, faire des progrès qui, alors, se dessinent en termes de procédures, et c'est assez, inconnu, certainement, du grand public. Il a fait en sorte que, par exemple, à la curie romaine, il y ait dans un des dicastères, qui est un mot qui correspondrait à ministère qui s'occupe, qui a des activités, eh bien, qu'il y ait des dizaines de personnes qui travaillent sur des dossiers d'abus sexuels et qui, dont l'étude finit par une sanction qui est portée cette fois par l'Église et non plus par le droit civil qui a, dans ce cas, son rôle à tenir. Mmh. Donc, il y a eu un chemin qui a été fait. Et il est clair que le prochain pape, dont on ne connaît pas encore, ni le nom, ni la forme, ni ce qu'il fera, mais devra encore aller plus loin, car je pense que tout le monde est d'accord pour dire cela, les abus sexuels, c'est le contraire de ce que dit et doit faire l'Église.
Alors, autre combat du pape François, évidemment, c'est l'accueil des migrants. Son premier voyage en dehors de Rome, c'était à Lampedusa en juillet 2013. On l'écoute.
Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Ce sont des noms et des prénoms, ce sont des visages et des histoires, ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. Les personnes qui risquent de se noyer, abandonnées sur les flots, doivent être secourus. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
C'est un devoir d'humanité. Bruno Duvic, qu'est-ce que c'est vraiment peut-être ce qu'on retiendra de plus important de son pontificat, cet accueil des migrants ?
C'est un des aspects majeurs, indiscutablement, avec les réserves. Alors, l'aspect religieux, au fond, dans les migrants, le pape, chef des catholiques, voyait le visage du Christ, il le disait souvent, et il était dans son rôle de dignitaire religieux de rappeler cet impératif d'accueil de l'autre, d'accueil du plus souffrant, du plus fragile. Donc ça, je dirais que c'est en quelque sorte, si j'ose dire, le verre à moitié plein. Le fait qu'il a joué un rôle, le président de la République italienne Sergio Mattarella disait, il était un point de référence. Ben, sur cette question-là des migrants, il était un point de référence à un moment, et on vient au verre à moitié vide, où les autres dirigeants ont plutôt tendance à fermer les frontières.
Mais
donc oui, on peut dire, en effet, que le pape a plaidé dans le vide. Après, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle de dignitaire religieux de rappeler des principes, quitte à ce qu'il ne soit pas écouté ?
Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'elle ressurgit, cette histoire de migrants aujourd'hui, parce que les hommages sont évidemment unanimes, mais avec plus ou moins d'emphase. Et je pense, par exemple, à l'hommage de Donald Trump, « Repose en paix, pape François, que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé ». C'est un message qu'il a adressé sur son réseau social. C'est quand même le service minimum, Antoine-Marie Izoard. Il était violemment contre la politique migratoire de Trump.
Ah oui, et puis le pape l'avait exprimé de façon très claire dans une lettre juste après l'élection de Donald Trump. Le pape François écrit aux évêques américains et il leur dit, en utilisant des mots de J.D. Vance, qui, quand même, le vice-président américain, était hier matin chez le pape, pendant la messe de Pâques, à laquelle le pape n'assistait pas avant d'aller à la bénédiction Orbi et Torbi. Donc c'est quand même, c'est assez incroyable en fait. Le pape a reçu de Greta Thunberg à J.D. Vance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi ça, l'Église et la force d'un chef d'État comme François.
En fait, on a
l'impression
qu'il était vraiment complètement dans son temps, dans son époque.
Mais complètement.
On était sorti du théologien, c'était pas Benoît XVI.
Après, c'est sûr que François n'a pas toujours été compris dans nos vieux pays, en Europe, en Amérique. D'abord, des catholiques n'ont pas forcément compris, mais moi le premier, que la plupart, la majorité des immigrés aujourd'hui, des migrants aujourd'hui, sont des catholiques. Alors évidemment, nous regardons notre Europe avec des migrants, et c'est là que le pape a pointé, parce que c'est là qu'il y a des morts. Le pape a pointé l'immigration en Méditerranée, où évidemment, il y a peut-être une majorité, forcément, peut-être de musulmans. Donc, effectivement, c'est ça qui a rendu difficile pour certains partis, pour certains catholiques. Et je reconnais qu'on a pu être un peu gratté, un peu agacé ou un peu agacé par cette insistance. Maintenant, le pape nous a retourné notre façon de voir les choses. On a oublié aussi de lire la totalité des messages du pape. Je reviens quand même à la majorité de ces migrants qui sont en Asie, en Amérique, quand même, effectivement, d'abord des catholiques. Et ça, on a tendance à oublier que le pape ne parle pas qu'à l'Europe. Il parle au monde entier. Il parle à tous les chefs d'État. Et puis après, on a tendance à oublier que le pape, dans ces documents, et depuis, avec lui, mais avec Benoît XVI, avec Jean-Paul II, et c'est l'histoire de l'Église, depuis des dizaines d'années, évoque évidemment le devoir des pays d'accueil, le droit des migrants, mais aussi le droit, ou plutôt le devoir des pays de départ. Dieu sait si c'est important. Voilà des sujets qui ont été difficiles à comprendre par nombre de catholiques. Il y a des trucs tout bêtes, parfois je vous le fais très vite, mais quand le pape revient, je crois que c'est de Lesbos, je veux pas dire de bêtises, mais d'une île où il a rencontré des migrants, il revient et il ramène dans son avion à Rome deux familles de migrants. Et ce sont des musulmans. Et en fait, c'est parce que... Et donc ça a choqué des catholiques. Mais c'est quoi le pape ? Si c'est le pape qui va chercher des musulmans de l'autre côté de la Méditerranée ou presque et qui nous les amène en Europe, d'abord le pape faisait un geste de charité. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, aucun catholique n'avait des papiers en règle pour pouvoir venir en Europe. Et le Vatican a fini par l'expliquer après.
Merci à tous. On aurait pu encore évoquer l'écologie, etc. Il y en avait pour des heures. Parler de la suite du protocole des funérailles, etc. On y reviendra sans doute dans le téléphone sonne parce que Bruno Duvic, notre fil rouge, restera avec nous. Merci infiniment Antoine Marizoire, merci aussi à vous Monseigneur Valdrini, et puis à tout à l'heure Bruno. Cette édition spéciale évidemment consacrée à la mort du pape François continue. Ce sera la chronique de Claude Guibal dans Le Monde à 18h50, et puis aussi la BO du Monde de Cyril Sauvageau qui nous fera entendre un disque du pape François. Oui, ça existe. Et pour bien comprendre ce qu'il représentait dans le monde à la tête d'1,4 milliard fidèles, petit tour de la planète en 5 escales. On commence par le Brésil. Ce pays concentre 7% des catholiques du monde. Bonsoir Jean-Mathieu Albertini.
Bonsoir.
En direct de Rio, comment l'annonce de sa mort a-t-elle été accueillie ?
Écoutez, la nouvelle est ici tombée en pleine nuit. C'est donc au réveil que le pays a appris le décès du pape. Pour l'instant, c'est encore un peu l'incrédulité qui domine, mais les fidèles se regroupent déjà devant les grandes églises du pays. Il faut dire que le pape François n'est pas n'importe quel pape, c'est le premier souverain pontife sud-américain. Alors, quand en 2013, pour son premier voyage international, il est venu au Brésil, il a déclenché une ferveur rare. 3,5 millions de personnes ont envahi la plage de Copacabana, un record de fréquentation jusqu'à présent inégalé.
Et pourtant, le nombre de catholiques est plutôt en recul dans le monde.
Oui, les catholiques restent majoritaires ici. Ils représentent plus de la moitié de la population, mais pourraient être dépassés par les évangéliques dans le futur. Le pape François a tenté de décentraliser un peu le pouvoir du Vatican pour endiguer ce recul, par exemple en nommant des cardinaux d'Amérique du Sud. Alors, c'est un phénomène de fond. Donc, pour le moment, cela ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet. En tout cas, pour ce qui est des Brésiliens, on compte 7 cardinaux aptes à voter lors du conclave à venir.
Bon, et côté réaction, j'imagine que c'est l'avalanche.
Oui, bien sûr. Des politiciens de tous bords et de tous niveaux ont réagi à commencer par le président Lula qui a décrété 7 jours de deuil officiel dans le pays. Les deux hommes sont amis depuis plus de 20 ans et partagent des valeurs communes. On peut citer la défense de la démocratie, de l'Amazonie, la lutte contre les inégalités sociales et même la passion du foot. Ils se sont rencontrés de nombreuses fois et quand Lula était en prison entre 2018 et 2019, ils ont entretenu une correspondance. Évidemment, ce genre de positionnement dans un pays aussi divisé que le Brésil n'a pas apporté que des amis au pape François. Alliés et électeurs de Jair Bolsonaro n'ont pas hésité à l'accuser d'être un communiste. D'ailleurs, les relations entre les deux chefs d'État ont été tumultueuses. Jair Bolsonaro reste le seul président brésilien à ne pas avoir rencontré de pape. Cela ne l'a pas empêché, depuis l'hôpital où il se trouve en ce moment, de lui aussi rendre hommage au pape François.
Alors, autre réaction, à l'inverse cette fois, dans l'un des plus grands pays catholiques d'Europe, la Pologne. Bonsoir Adrien Sarlat.
Bonsoir Christelle.
Peu de réactions, alors rien à voir avec la disparition de Jean-Paul II, évidemment, qui était polonais.
Oui, c'est ça. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier en Pologne, puisque c'est le dit Pâques. Donc, les gens déjà ne sont pas dans la rue, tout est fermé. Ils sont plutôt chez eux, en famille ou entre amis. Et rien à voir donc avec 2005 et la mort de Jean-Paul II, qui avait donné lieu à 5 jours de deuil national. On pouvait aussi, à l'époque, même observer dans la rue des rassemblements spontanés pour pleurer le souverain pontife. Là, rien de tout ça. Évidemment, les prières des fidèles ont accompagné le pape ces derniers jours, ces derniers mois, notamment depuis son hospitalisation. Et de nombreux politiciens ont écrit des hommages sur les réseaux au souverain pontife. Quelques messes en son honneur ont été prononcées, comme celle de Cracovie, qui est en train d'ailleurs de se terminer. Mais aucun événement particulier n'a été annoncé à l'échelle du pays, comme on a pu l'entendre juste avant au Brésil, par exemple.
Et les Polonais espèrent, en fait, que le prochain pape sera plus conservateur.
Oui, c'est ça. En fait, il y a trois points de crispation dans le pontificat du pape François qui passe assez mal auprès des Polonais. D'abord, son ouverture, vous en parliez juste avant, à la communauté LGBTQ+, sa volonté de faire participer les femmes et les laïcs à la vie de l'Église, ou encore ses prises de parole jugées molles sur la guerre en Ukraine, puisque ici, les Polonais trouvent qu'il a manqué de fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine, ou encore que ses appels à la paix, ça paraissait plutôt à des appels à la scission pour Kiev.
Mmh.
Alors gardons à l'esprit qu'on est quand...
Oui, merci Adrien.
Je voulais juste ajouter que ici, la référence, ça reste quand même Jean-Paul II, et donc forcément, les Polonais espèrent que le prochain conclave débouchera sur l'élection d'un prêtre plus conservateur et européen, qui les comprendrait mieux. À l'image de ce que Jean-Paul II pouvait représenter pour eux.
Merci Adrien Sarlat. On change de continent. On part en Afrique, plus précisément au Kenya. Alban Tiroir, en direct de Nairobi. Bonsoir.
Bonsoir.
Le pape François avait fait l'un de ses tout premiers voyages pontificaux au Kenya et ça avait été un immense succès populaire.
Oui, absolument. La presse kenyane aujourd'hui a à l'unanimité commémoré une visite qui a laissé des souvenirs mémorables. Le pape François a passé en 2015 3 jours au Kenya et c'était 3 jours de ferveur. Les Kenyans s'étaient regroupés dans les rues de Nairobi, la capitale, derrière les barricades de police, dans l'espoir d'apercevoir le pape François. À chaque passage, il était accueilli par des chants et des cris. Un des temps forts de sa visite a été la célébration d'une messe à l'université de Nairobi. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues y assister. Des Kenyans, bien sûr, mais aussi des Congolais, des Rwandais, des Tanzaniens. Et malgré une pluie torrentielle, certains faisaient la queue dès les premières heures du matin pour être sûrs d'avoir une place. Ce qui a beaucoup marqué aussi dans cette visite, c'est que le pape s'est rendu dans un bidonville de Nairobi, le bidonville de Kangemi. Il y a tenu un discours assez fort pour dénoncer de nouvelles formes de colonialisme qui, selon lui, amplifient les injustices liées à l'exclusion urbaine. L'ancien président Uhuru Kenyatta, qui l'avait accueilli en 2015, s'est souvenu sur X aujourd'hui d'une visite qui restera, selon lui, gravée dans la mémoire nationale comme un moment divin. Depuis l'annonce du décès du pape, les hommages affluent au Kenya. L'actuel président William Ruto, par exemple, a déploré une perte immense pour toute la communauté catholique et a salué son humilité, son engagement sans faille pour la justice et son empathie pour les plus pauvres.
Et est-ce que les Africains croient en leur chance, cette fois, d'avoir un pape issu de leur continent ?
Certains l'espèrent sûrement, en tout cas, notamment car parmi les candidats pressentis, il y a un Africain dont le nom revient souvent. C'est le cardinal Peter Tokson du Ghana, qui était le premier à être nommé cardinal dans son pays. faut noter que le continent africain représente tout de même 20% de la population catholique mondiale et le nombre de fidèles y est en hausse. 281 millions en 2023 contre 272 l'année précédente, selon des chiffres du Vatican. Le nombre de prêtres aussi est en hausse. Donc le symbole d'un pape africain serait très fort.
Merci. Enfin, une dernière étape aux États-Unis. Le pape avait reçu hier le vice-président J.D. Vance. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir Christelle.
En direct de Washington. Et Donald Trump, j'en parlais tout à l'heure, lui rend hommage, mais alors du bout des lèvres.
Oui, il y a quelques minutes, lors de la traditionnelle chasse aux œufs de la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé que les drapeaux seraient mis en berne pour honorer le pape François et que c'était un homme bon, qui travaillait dur et qui aimait le monde. Ça n'a pas duré plus de 15 secondes. Bref, service minimum ici. Et ça montre les relations plus que froides entre les deux hommes, hein, principalement autour du sujet des migrants. Leur premier moment tendu remonte alors même que Donald Trump n'était pas encore président. C'était en février 2016. François avait vivement réagi à la promesse de campagne du candidat républicain d'ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique. Une personne qui ne pense qu'à construire des murs et non à construire des ponts n'est pas chrétienne, avait-il lancé, ce à quoi le milliardaire avait répondu avec son tact habituel, je le cite, que si le Vatican est attaqué par l'organisation État islamique, je peux vous promettre que le pape priera pour que Donald Trump soit président. 9 ans plus tard, presque jour pour jour, rebelote, cette fois Donald Trump vient d'être fraîchement élu pour son deuxième mandat. Vous en parliez avec vos invités Christelle, le pape rédige une lettre à l'attention des évêques américains où il estime que les plans de déportation massive de cette administration se termineront mal. Ce courrier visait également directement J.D. Vance, qui avait justifié cette politique en citant l'ordoar mauris, un obscur concept catholique qui remonte au Moyen-Âge. Car au-delà de Donald Trump, c'est surtout avec le vice-président américain que les tensions ont augmenté pour ce second mandat. Vance s'est converti au catholicisme il y a 5 ans, après avoir été élevé dans un environnement protestant évangélique conservateur. Aux antipodes de la vision très inclusive voulue par le pape François, c'est pourtant avec le vice-président américain que le souverain pontife aura eu son dernier entretien officiel. Un échange très court, quelques minutes, où les sujets sensibles n'ont pas été abordés.
Et les catholiques américains sont très divisé, Hélène.
Oui, à une époque, l'Église catholique américaine était plutôt celle qui était le moteur de la réforme de l'Église catholique. Cette partie existe toujours, mais elle est en train de devenir minoritaire. À l'image de J.D. Vance, il y a tout un pan ultra-conservateur qui a émergé ces dernières années. Plus de 80% des prêtres américains ordonnés depuis 2020 s'identifient comme conservateurs. Une branche opposée à l'avortement, au mariage homosexuel, à la protection des migrants, qui pourtant est certainement la seule politique du pape François qui fait consensus ici chez les évêques américains, mais pas autant chez leurs fidèles. 55% des catholiques américains ont voté pour Donald Trump en novembre dernier.
Merci Hélène Chevalier. Et on fera un tour sur la place Saint-Pierre tout à l'heure à 19h. La première messe en hommage au pape François doit débuter maintenant dans 40 minutes.
How dare you? The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le Monde à 18h, non pas 50, mais 53 ce soir, avec Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
Et on regarde avec vous, Claude, pourquoi la mort du pape François pourrait avoir un effet déterminant dans de nombreux pays.
Oui, Christelle, car 1 milliard de catholiques estimés à travers la planète, c'est quand même aussi 1 milliard d'électeurs potentiels. Et on a vu ces derniers temps, on n'a pas arrêté de le répéter ce soir, hein, combien la religion, les valeurs religieuses avaient joué un rôle déterminant ces dernières années dans certaines accessions au pouvoir. C'est vrai que pendant des siècles, l'Église a contrôlé le pouvoir avec les monarchies de droit divin, puis elle s'est posée en contre-pouvoir pendant la guerre froide avec l'élection de Jean-Paul II, ce petit cardinal polonais qui a joué un rôle essentiel dans la chute de l'Union soviétique en soutenant les mouvements anticommunistes.
Et la fin de la guerre froide, c'est le début de la globalisation, de la mondialisation.
Précisément, c'est ce système d'ailleurs qui est aujourd'hui attaqué à la fois par les États-Unis de Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine et aussi tous les populistes et souverainistes à travers le monde. Bref, aujourd'hui, la rupture, elle ne se fait pas sur une fracture géographique nord-sud ou ouest-ouest, mais sur une vision civilisationnelle et communautaire. On l'a dit encore ce soir, ce n'est plus un monde qui s'ouvre, mais un monde qui se referme. Et le pape François, lui, promouvait, on l'a dit aussi, une vision ouverte du monde, une vision inclusive, l'accueil des migrants, l'ouverture aux périphéries, avec l'entrée en nombre au sein de la curie romaine de cardinaux asiatiques, africains, sud-américains. C'était une vision sociétale aussi bien plus ouverte aux femmes, aux homosexuels, aux exclus. Bref,
tout ce que détestent ces nouveaux hommes forts de la planète.
Donald Trump et J.D. Vance en tête, donc.
Et absolument. Et Hélène Chevalier le disait il y a quelques minutes. Hein, c'est pourquoi la rencontre du vice-président américain hier avec le pape à Rome était tout sauf anodine. Parce que J.D. Vance, il appartient à ce qu'on appelle le catholicisme post-libéral. C'est une vision littérale de la Bible, une vision apocalyptique dans laquelle la guerre, la confrontation, ce sont des choses essentielles puisqu'elles précèdent l'arrivée du Messie qui est donc espéré. Et ça, c'est une vision qui est aussi partagée par les ultra-orthodoxes juifs alliés, notamment de Benjamin Netanyahou.
Et c'est pourquoi le choix du prochain pape pourrait faire toute la différence.
Eh oui, moins d'Européens, plus Africains, plus Asiatiques. Le pape François a effectivement profondément remodelé le paysage de ces cardinaux qui vont, dans les jours qui viennent, élire son successeur. Il en a nommé plus de 60%. Alors, ce sont des hommes dont on peut imaginer qu'ils partagent les positions, mais ce sont quand même des positions très clivantes au sein d'une Église qui est plus divisée que jamais. Or, le lobbying, eh bien, il est intense parmi ces électeurs-là. Des think tanks conservateurs aux États-Unis ou en Europe ont ainsi invité très récemment les nouveaux cardinaux asiatiques à réfléchir ensemble à la notion de famille, la notion d'identité. Et en France, les médias proches de Vincent Bolloré font, eux, campagne pour le cardinal guinéen Robert Sarah, qui est un opposant du pape François, un homme connu pour sa critique de la décadence des valeurs du monde occidental. Et ça, c'est un discours qui résonne beaucoup et qui résonne aussi temps à Washington, Budapest, Buenos Aires ou à Moscou.
Décryptage Claude Guibal.
France Inter, le 18-20.
Et c'est l'heure de la BO du monde. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous avez ressorti pour nous Des Oubliettes, il faut bien le dire, un projet un peu méconnu du pape François, un disque de rock enregistré il y a 10 ans avec des musiciens italiens.
Oui, alors je vous le dis tout de suite, vous n'entendrez pas François s'égosiller comme un rocker. Ce sont uniquement des extraits de discours et d'homélies mixés à de la musique. Mais le projet est suffisamment original pour avoir surpris tout le monde à sa sortie en 2015.
Et la Iglesia no puede ser una ONG.
On savait déjà que le pape François avait quelque chose d'une icône pop. Ce n'est pas pour rien si le magazine Rolling Stone l'avait mis en une en 2014. En ce début de pontificat, François a l'image d'un pape moderne, réformateur. Illustration avec cet album à la tonalité pop, rock, latine, composé par plusieurs artistes italiens, dont le leader d'un groupe assez connu des années 70, Les Ormés, l'équivalent italien des Genesis et autres Pink Floyd. Les plusieurs rockers vétérans vont donc composer en studio, à grand renfort de guitare et de synthé, une bande-son qui se veut à la fois moderne et spirituelle. Ici, par exemple, on entend le pape François s'adresser en anglais aux jeunes coréens à Séoul en 2014.
Wake up. Wake up.
C'est sobre quand même.
C'est sobre.
En réalité, Cyril, François n'est pas le premier souverain pontife à avoir sorti un disque.
Effectivement, Jean-Paul II et Benoît XVI l'avaient précédé, mais avouons-le, ça n'avait pas grand-chose à voir. Écoutez comment le CD sorti par Jean-Paul II en 96 était présenté dans ce reportage du JT de France 2.
Si le Saint-Père a accepté de prêter son image à ce spot, c'est pour la bonne cause, la sienne. Celle d'un disque des prières du rosaire, livré précise la pub avec son chapelet. Luxueusement présenté, le coffret avec ses deux disques offre un contenu sévère. Des enregistrements live et bruts des prières du rosaire par Jean-Paul II, afin, disent les affichettes, que vous puissiez prier avec le Saint-Père dans l'intimité de votre maison.
La grande musique.
Un contenu sévère, on pourrait en dire autant de l'album Alma Mater de Benoît XVI en 2009, un disque mêlant prière et chant dédié à la Vierge Marie. Pas grand chose à voir donc avec ce projet tout à fait original du pape François. Réécoutez-le aujourd'hui, c'est intéressant à entendre, un mélange de rock planant et d'envolée lyrique, Wake Up, qui a même eu droit à sa critique dans Pitchfork, le grand webzine musical américain de référence. Il faut dire qu'il y a des guitares qui méritent d'être entendues.